Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique juridique qui ne pouvait évidemment pas faire l'économie de se pencher sur la récente constitutionnalisation de l'IVG en France. Et en fait, on verra que par une coïncidence extraordinaire, c'est le jour où l'interruption volontaire de grossesse est entrée dans la Constitution que le procureur de la République de Meaux a demandé le renvoi de Pierre Palmade devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, puisque la future maman gravement blessée dans l'accident causé par l'humoriste a malheureusement perdu son bébé. Alors vous me direz, mais quel rapport entre les deux ? Eh bien, nous le verrons à la fin de cette chronique. Vous voyez, je prends soin du suspense. Alors, si vous le voulez bien, nous allons d'abord parler de l'inscription de l'IVG dans la Constitution française. Sur le plan symbolique, c'est évidemment une bonne chose, et cela a permis à notre président, qui aime quand même qu'on parle de lui, de savourer un certain retentissement à l'étranger, tout en sachant que cet événement lui a également permis de communiquer vers l'intérieur en vue des élections européennes avec un plan com bien ficelé dans son calendrier, vote à l'Assemblée nationale et au Sénat, congrès pour modifier la Constitution et cérémonie de scellement dans la Constitution, dans laquelle il a d'ailleurs pris un râteau par Catherine Ringer en essayant de la tripoter comme à son habitude, alors même que cette cérémonie était tombée largement en désuétude. Mais bon, le plan com a été une réussite et le symbole de l'IVG dans la Constitution est quelque chose d'important. Mais sur le plan légal, quel intérêt ? En fait, tout est parti de l'arrêt de la Cour suprême des USA qui a annulé le fameux arrêt Wade contre Roe datant de 1973, soit dit en passant avant la loi Veil en France, qui autorisait l'IVG aux USA, mais sur des considérations légales très très faibles et bancales, ce que tous les juristes avaient quand même remarqué. Cela a tenu longtemps pourtant, puis une Cour suprême avec une majorité républicaine très dure y a mis fin, renvoyant simplement la question de l'IVG à chaque État américain. De fait, il s'agissait d'une décision américaine sur des considérations américaines et sans grand retentissement en France. En France, en fait, il n'y a plus vraiment de débat, sauf concernant des groupuscules sur l'existence de l'IVG, mais certains se sont inquiétés et d'autres y ont vu un intérêt politicien. Bon, on ne reviendra pas sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution, mais sur sa portée légale. En fait, il n'est pas acquis du tout que cette inscription soit vraiment plus protectrice, voire bien au contraire. En effet, d'une part, on notera que la formule est alambiquée. Liberté garantie de la femme de procéder à un IVG dans le cadre de la loi. Et déjà, on note, voyez, cette notion de liberté garantie, comme si la liberté ne peut pas suffire, tout comme on note la notion de droit opposable, tout comme si le droit ne pouvait pas suffire. Ce qui est déjà quand même un peu inquiétant sur le plan de l'architecture juridique. On aurait compris, que cela devienne un droit constitutionnel. Mais la limitation de la liberté au cadre de la loi, liberté garantie dans le cadre de la loi, nous dit le texte, permettrait à un gouvernement plus conservateur dans le futur de réduire les conditions d'accès à l'IVG par la loi sans atteindre la liberté, tout en la vidant de sa substance, comme actuellement en Pologne ou en Italie. Du reste, il existe un certain nombre de droits considérés comme constitutionnels, comme le droit au logement ou celui à avoir un travail, qui est d'ailleurs le corollaire du devoir de travailler cité par Gabriel Attal, mais qui avait donc oublié la seconde partie du texte qui est d'avoir un travail. Pour autant, il y a le double de SDF en France par rapport à 2017. Il n'y a jamais eu autant de mal logés et il reste 6 millions de chômeurs vrais ou camouflés en stagiaire de la formation professionnelle, preuve que des droits constitutionnels peuvent ne pas suffire à leur effectivité. Surtout, en constitutionnalisant la liberté de l'IVG, on risque de la mettre en concurrence avec d'autres libertés à valeur constitutionnelle. Il y en a une qui vient déjà d'être mise sur le tapis, c'est celle de la clause de conscience. En réalité, les soignants ont une double clause de conscience. Une générale pour tout acte médical et une spécifique à l'avortement. Déjà, des premières demandes arrivent visant à faire tomber cette clause afin de garantir précisément la liberté d'accès à l'IVG. Mais cela se heurtera inévitablement aux normes de la Convention européenne des droits de l'homme. Et il est vrai que la question est réelle, car s'il n'y a pas eu de problème technique pour pratiquer les IVG jusque dans les époques récentes, c'est surtout parce qu'il y avait beaucoup de médecins militantes et militants de l'IVG dans les années 70 et 80. Mais ils sont maintenant à la retraite. Et le souhait de pratiquer les IVG recule avec le nombre de gynécologues. D'autre part, qui peut dire aujourd'hui que le droit de l'enfant à naître ne prendra pas demain le dessus ? Déjà, on voit arriver la fin de l'accouchement sous X. Dans la mesure où le droit de l'enfant à connaître ses origines est considéré comme supérieur au droit de la mère à accoucher sous X. Bref, la constitutionnalisation de l'IVG ne garantit rien pour le futur. Et j'en viens à Pierre Palmade. Alors quel rapport avec l'IVG ? Eh bien, c'est le fait que pour valider l'IVG, on considère que le fœtus ne peut pas être une personne humaine. Du reste, la loi Veil, c'était moins une loi qui autorisait l'avortement qu'une loi de dépénalisation de celui-ci. Et donc, la loi pénale vous dit que si vous tuez un fœtus dans le ventre de sa mère, il n'y a pas d'homicide volontaire, sauf si celui-ci pouvait naître viable. Pour Palmade, la malheureuse maman a fait l'objet d'un accouchement provoqué et le bébé était malheureusement mort avant d'être né. C'est un drame absolu, mais en cohérence générale avec le statut du fœtus, l'accident causé par Pierre Palmade ayant causé uniquement, entre guillemets bien sûr, des blessures certes graves et un malheureux enfant mort-né, il ne peut normalement pas être poursuivi pour homicide involontaire, en plus des poursuites pour blessures aggravées. Dès lors, c'est par un malencontreux hasard que le procureur de Meaux, invoquant une loi qui devrait pouvoir évoluer, a souhaité demander le renvoi pour homicide involontaire le jour où l'on faisait entrer l'IVG dans la Constitution. Voilà, vous savez tout et je vous retrouverai avec plaisir sur Radio Pierrot et RPHU dans 15 jours, car n'oubliez pas, vous en avez pris pour perpète, incompressible. Au nom de la loi, une chronique judiciaire de Laurent Ipaillé, avocat. Écoutez les 2e et 4e mardis du mois, 12h45, rediffusion le jeudi à 9h35.